Chapitre 22. À 18h30, le jeudi soir, 5 heures après l'attentat qui avait anéanti l'hôtel Veblen, la tempête de neige donna enfin l'impression de vouloir se calmer à l'heure où s'allumait l'éclairage public. La fumée qui s'élevait des ruines carbonisées du bâtiment était lentement passée du noir au blanc en s'estompant, jusqu'à dessiner des ombres fantomatiques suggérant la présence des esprits prisonniers de cette fournaise mortelle. Les flocons, plus gros à mesure que s'apaisait la tempête, dessinaient dans la nuit tombante des spirales gracieuses évocatrices des pétales de fleurs que l'on fait tomber en cascade sur le cercueil lors d'un enterrement. Le shérif Luther Tillman observait la scène depuis le trottoir opposé, à l'intersection de Main Street et de Fitzgerald Avenue, les mains enfoncées dans les poches de son épais blouson d'uniforme. Un observateur attentif aurait remarqué que la buée s'échappant de ses narines, à la façon du souffle d'un dragon, évoluait au rythme d'émotions contradictoires telles que le chagrin et la colère. La chance avait voulu que les immeubles mitoyens de l'hôtel n'aient pas été davantage endommagés, mais c'était là une bien mince consolation face à l'ampleur de la catastrophe. Le nombre des victimes s'élevait provisoirement à 42 personnes, au nombre desquelles figurait le gouverneur du Minnesota ainsi que le parlementaire de la circonscription, mais le décompte risquait fort d'augmenter à mesure que les secours déblairaient les gravats. Le shérif rongeait son frein après avoir été écarté successivement par la police d'État, puis, de façon plus agressive, par les équipes de l'antenne du FBI à Minneapolis, à présent par les spécialistes de l'unité 1 du département d'analyse du comportement, arrivés de Quantico par avion quelques minutes plus tôt. Tillman comprenait leur position. Spécialistes des attentats à la bombe et des incendies criminels, ils étaient infiniment mieux outillés qu'un shérif de petite ville pour mener l'enquête, sans compter que la présence parmi les victimes d'un élu national faisait de l'attentat un crime fédéral. D'un autre côté, ils se trouvaient sur ces terres, et nombre de ceux qui avaient trouvé la mort ce jour-là étaient des amis et des voisins. Il en avait le cœur serré et son chagrin se trouvait décuplé par le sentiment d'impuissance qui l'étreignait. En dépit du froid et des fumées nauséabondes qui flottaient au gré des humeurs du vent, les habitants s'étaient attroupés tout autour du lieu du drame afin d'observer la scène et rendre hommage aux victimes. Les adjoints de Tillman leur demandaient gentiment de reculer lorsqu'ils s'approchaient trop, distribuant des conseils à ceux qui s'inquiétaient de savoir si l'un de leurs proches n'était pas resté sous les décombres. Mais la police locale était de peu d'utilité face à l'omniprésence des autorités fédérales. Le shérif ne passait pas inaperçu avec son mètre 90 et aucun signe de voussure à 51 ans. Luther Tillman avait été, à l'adolescence, l'une des stars de l'équipe de football américain de son lycée, lui qui était plus noir que noir dans un état comptant moins de 5% d'afro-américains. Il était fier d'avoir été élu shérif du comté par ses concitoyens à 4 reprises, mais sa fierté n'était pas de celle qui entraîne certains êtres humains dans la chute. Avant tout, Luther était un individu humble et respectueux d'autrui, pleinement conscient de sa responsabilité à l'endroit de ceux qui lui avaient accordé leur confiance. Sa femme Rebecca, épousée 26 ans plus tôt, avait le don de détecter au premier signe toute tentation d'arrogance chez lui et s'empressait de régler la question d'un regard. De son côté, Luther savait que son comportement rejaillirait invariablement sur sa femme et leurs 2 filles. Ce constat ajoutait à son désarroi face à des autorités qui faisaient aussi peu de cas de sa présence alors que ses concitoyens attendaient beaucoup de lui. Il s'inquiétait de voir l'enquête se limiter à une seule piste, celle de Cora Gunderson. Il connaissait Cora depuis 20 ans et savait qu'elle n'était pas femme à commettre un acte aussi horrible. Cora avait fait des miracles avec les enfants en difficulté. Personne n'avait jamais rien eu à lui reprocher. Mais Luther était trop bon flic pour repousser d'emblée l'idée qu'elle avait été prise de folie, même s'il peinait à y croire. Il ne restait quasiment rien de son 4x4, à part une masse métallique informe, et encore moins de Cora elle-même, au point que seules les analyses ADN permettraient de l'identifier à coup sûr. De nombreux témoins l'avaient pourtant vu passer, hilar au volant de son Expedition en feu, sans personne à côté d'elle. Une équipe du FBI s'était chargée de fouiller son domicile, à une demi-heure de là, et Luther devait se contenter d'attendre en rongeant son frein. Il venait de traverser la rue afin de discuter avec le responsable local des pompiers, davantage par désœuvrement que dans l'espoir de recueillir des informations utiles, lorsque son téléphone sonna. Il était 18h42. Sur l'écran s'afficha le nom de Rob Stassen, l'adjoint à qui Luther avait demandé de conduire les enquêteurs du bureau chez Cora.
« Shérif, si vous avez une minute, j'aimerais que vous veniez jusqu'ici. »
« À ce stade, répliqua Luther, la seule différence entre un ours en état d'hibernation et moi, c'est que je ne vis pas dans une grotte. Que se passe-t-il ? » ?»«
Rien, c'est juste que... ils sont partis. »
« Qui ça ? » ?»«
Le FBI. »
Les fédéraux avaient installé leur QG dans les locaux de la bibliothèque municipale, sur Main Street, à une rue de l'hôtel Veblen. C'est de là qu'était partie une équipe de 4 agents vers 15h30, avec pour mission de visiter la maison de Cora. 2 de leurs collègues, arrivés directement de Quantico un peu plus tard, les avaient rejoints avec des valises pleines de matériel. Le domicile de Cora méritait qu'on s'y intéresse, car c'était probablement là qu'avaient eu lieu les préparatifs de l'attaque. Le passage des lieux au peigne fin, comme le voulait la procédure, aurait dû occuper les équipes de l'identité judiciaire au moins jusqu'à minuit. Luther, les yeux rivés sur ses bottes pleines de neige, s'éloigna du chef des pompiers et poursuivit sa conversation téléphonique d'une voix feutrée. Ont-ils précisé quand ils revenaient ?
« Je n'ai pas cru comprendre qu'ils en avaient l'intention, » répliqua Stassen.
L'intuition du shérif lui confirma ce qu'il pensait depuis un petit moment déjà. Quelque chose clochait dans cette enquête. Certains agents du FBI présents sur le terrain faisaient preuve d'une désinvolture surprenante. C'est vrai, les enquêteurs sont censés maîtriser leurs émotions, mais même les plus endurcis auraient dû montrer un minimum d'empathie à la vue de ce spectacle de désolation. 4 agents, en particulier, 2 hommes et 2 femmes, affichaient un détachement ahurissant. Le shérif en arrivait à se demander s'ils appartenaient à la même espèce que les victimes dont les restes carbonisés et déchiquetés gisaient sous les décombres.
« Je suis encore là-bas, » poursuivit Stassen. « Il règne une drôle d'atmosphère, shérif. Vous feriez mieux de venir voir par vous-même. »